Bonjour à tous et bienvenue sur Mordant, le podcast sur la santé animale. Je m'appelle Mathilde Chalut-Natal, je suis ostéopathe animalier et dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec des acteurs de la santé animale, des vétérinaires, des ostéopathes, des sportifs professionnels et bien d'autres encore. Ensemble, nous découvrirons leur vie au quotidien, leur parcours, leur motivation et leurs liens, parfois atypiques et surprenants, avec les animaux. Tous animés par la même passion, nous irons plus loin vers la connaissance de nos amis les bêtes. Pour aider à lancer ce tout nouveau podcast et lui donner un maximum de visibilité, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts et pourquoi pas un petit avis si vous l'avez apprécié. Merci beaucoup! Aujourd'hui, je reçois à mon micro Sarah Janin, psychologue clinicienne et éthologue. Dans cet épisode, on va démystifier l'éthologie et l'apport de cette discipline dans la compréhension de l'animal. Elle nous parlera de ses consultations de bilan comportemental en binôme unique en son genre, en se préoccupant également des besoins et des attentes de l'humain, à qui elle propose une écoute bienveillante. On abordera également les problématiques comportementales et comment l'environnement, les relations et le pedigree rentrent en compte. C'est un épisode fascinant qui redonne les bases dans les relations entre l'animal et l'homme. Avec Sarah, on a parlé de contagion émotionnelle, de non-jugement, d'anthropomorphisme, d'umwelt et d'épigénétique. Je vous souhaite une bonne écoute.
Salut Sarah, comment ça va ?
Salut, ben ça va très bien, je te remercie de m'accueillir.
Merci et bienvenue dans Mordant. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter rapidement ton parcours ?
Bien sûr. Et du coup, je m'appelle Sarah Janin, je suis psychologue clinicienne de formation. J'ai fait un master de psychologie clinique et puis j'ai la double casquette d'éthologue puisque à la suite de mon master, j'ai fait un doctorat en éthologie. Et je vous en raconterai un petit peu plus en détail, mais j'ai travaillé spécifiquement sur la communication entre l'homme et le chien de compagnie. Et puis, à côté de ça, j'ai monté il y a 4 ans avec Éléonore Buffet et Thierry Bédossa le centre de formation Animal University, que l'on dirige actuellement. Et parallèlement à tout ça, je mène des consultations de comportement pour les chiens et pour les chats en binôme avec le docteur Thierry Bédossa, qui est lui vétérinaire. Donc, on a une approche interdisciplinaire. Et enfin, je continue à donner des cours à la fac pour les étudiants de psychologie. Je leur donne des cours de biologie et de neuroanatomie.
Ah, super intéressant. Alors, on reviendra sur tes différentes casquettes tout le long de l'épisode. Pour commencer, mettons les bases. Qu'est-ce que l'éthologie ?
Alors, l'éthologie, c'est la science du comportement animal. Donc, on essaye de comprendre les comportements des différents êtres vivants. Alors, ça comprend l'humain, d'ailleurs, et parfois la nuance, la subtilité entre l'anthropologie et l'éthologie est assez mince, et certaines thématiques se recouvrent, mais c'est vraiment voilà, l'étude scientifique de pourquoi un comportement apparaît, quelle est sa fonction, quelle est son origine, est-ce qu'il est valable au niveau de l'espèce, ou est-ce que c'est cet individu qui présente ce comportement. Voilà, on peut se poser beaucoup de questions, et ça nous aide à progresser sur la compréhension des autres espèces que la nôtre, et améliorer aussi leurs conditions d'existence, en tout cas notre cohabitation avec ces différentes espèces.
Et quand tu as étudié l'éthologie, donc dans ton master, à ce moment-là, ça concernait tous les animaux ou tu as dû te spécialiser tout de suite ? Bah, tu as répondu avec tes recherches avec les chiens, mais est-ce que tu as quand même eu des bases sur les autres types comme animaux de rente, faune sauvage ou exotique ?
En fait, au départ, moi, quand j'ai commencé en psychologie, je ne connaissais pas l'éthologie. C'est vraiment une science dont je n'avais jamais entendu parler. Et j'avais une option en éthologie. Alors, je l'ai prise. Je me suis dit, ça doit être intéressant de travailler sur les animaux. Je vais en savoir un petit peu plus. Et les enseignements du professeur qui dispensait cette option à l'époque, Michel Kreutzer, m'ont vraiment passionnée. Et du coup, je me suis dit, super, je vais aller creuser un peu plus, je vais aller faire un stage dans le laboratoire d'éthologie de la fac de Nanterre, où je faisais du coup mes études. Et j'ai travaillé sur les oiseaux, sur les canaris à ce moment-là, et essayé de savoir un petit peu plus si les canaris devaient être pris par deux, ou est-ce que c'était une obligation, ou est-ce qu'on pouvait prendre un canari seul. Et donc, je travaillais sur l'optimisme chez le canari. Et pour répondre à ta question, en fait, en éthologie, moi, j'ai pas fait de master en éthologie, donc au cours du master d'éthologie, généralement, on apprend plutôt comment observer une espèce, comment analyser ses comportements, comment mettre en place un protocole expérimental. Ce serait impossible, en fait, d'étudier une espèce en particulier, parce que bah, y en a d'innombrables, et du coup, on ne sélectionne pas une espèce qu'on va étudier au cours du cursus, non. On regarde plutôt comment analyser des comportements, comment essayer de les interpréter, sans prendre trop en compte notre subjectivité. Et puis du coup, moi, c'était encore différent, parce que je n'ai pas fait ce master d'éthologie, j'ai fait un doctorat en éthologie. Donc tout de suite, moi, j'ai fait une recherche sur un sujet extrêmement spécifique, la communication homme-chien. Donc, j'ai pas du tout étudié, par exemple, les besoins ou la communication de la vache, du rhinocéros, de la fourmi. Je pourrais, dans l'absolu, choisir de m'intéresser à ces espèces, mais dans la formation initiale que l'on a, on ne voit pas, justement, toutes les espèces en particulier. On apprend plutôt des généralités sur le comportement des animaux.
Et est-ce que tu peux nous donner les différences entre un psychologue, un éthologue, un anthropologue et un comportementaliste? Parce que pour la majorité des gens, je pense que c'est un petit peu flou, les limites entre tous ces métiers.
Complètement. Alors, bah, l'éthologie, donc, encore une fois, c'est tu peux t'intéresser à différentes espèces vivantes. En général, on fait surtout de l'éthologie sur d'autres espèces que les humains. Donc, même si on peut parler parfois d'éthologie humaine, c'est on peut souvent, par exemple, comparer l'évolution, par exemple, de nos modes relationnels ou notre communication avec celle d'autres espèces. L'anthropologue, lui, il va vraiment s'intéresser à peut-être... alors, je ne suis pas anthropologue, donc c'est un petit peu difficile, mais ce que j'imagine, c'est davantage, sans rentrer d'ailleurs dans l'ethnologie presque, mais c'est l'évolution de l'humain selon les cultures, selon les époques, selon les pressions économiques, tu vois, des choses comme ça. Donc c'est aussi, je pense, à la frontière avec la sociologie.
Ouais, c'est je pensais à ça aussi.
Toutes ces sciences se chevauchent, grosso modo. Ouais. Je pense que ça dépend aussi des thématiques que tu étudies. Le psychologue, bah, c'est différent parce qu'en fait, le psychologue, il s'intéresse vraiment à l'humain. Alors, tu peux t'intéresser... là aussi, hein, il y a différentes branches en psychologie. Tu peux t'intéresser à la psychologie sociale, donc les mœurs de la société, ou tu vois, tout ce qui est système d'influence, je dis n'importe quoi, dans les médias, en marketing. La psychologie du développement avec les enfants, les adolescents, la psychologie cognitive, comment fonctionne notre système nerveux ou notre traitement de l'information. La psychologie clinique, donc c'est ce que j'ai fait moi, où là, tu t'intéresses... à la psychopathologie, donc aux émotions et aux troubles émotionnels que peuvent rencontrer en tout cas les individus. Et en tout cas, pour être psychologue, il faut un master en psychologie à l'université. Pour être éthologue, il faut un master minimum à l'université ou un doctorat Et puis, le comportementaliste, c'est encore un petit peu différent. C'est un peu le même débat qu'il y a entre psychologue et psychothérapeute. C'est-à-dire que pour le moment, le titre de comportementaliste n'est pas encadré, n'est pas reconnu par l'État. Donc, à l'heure actuelle...
C'est pour ça qu'on peut trouver des vétérinaires comportementalistes et des éducateurs comportementalistes.
C'est ça. C'est-à-dire que les vétérinaires comportementalistes, c'est une spécialisation qu'ils ont eue après leur cursus initial de vétérinaire. Une spécialisation de comportementaliste ou de zoopsychiatre, ce qui est encore différentes écoles. Et puis, comportementaliste, il y a des écoles privées, des centres de formation privés qui proposent des formations pour le devenir. Le seul diplôme qui est reconnu par l'État pour le moment, c'est celui de l'Université Paris-Nanterre, une licence professionnelle qui permet de devenir comportementaliste. Et pour le moment, c'est le seul qui est reconnu par l'État, puisqu'il est dispensé par le ministère de l'Enseignement supérieur.
Sans être éducateur.
Sans être éducateur.
Ok. Ouh, beaucoup d'infos. on va enchaîner avec quelles sont les différences entre l'animal et l'homme, puisque du coup, en plus, toi, tu as étudié les deux, enfin, plus le chien, mais beaucoup l'homme et le chien en doctorat.
Tout à fait. Alors, les différences, j'allais dire, moi, ce qui me frappe le plus, si on parle de différences, c'est peut-être que le langage verbal de l'humain, c'est-à-dire que le chien ou le chat ou les autres espèces n'ont pas le même langage, en tout cas n'ont pas accès à ce langage verbal, ils comprennent certains mots bien sûr, et en particulier le chien qu'on a beaucoup étudié de ce point de vue-là, mais ils ne peuvent pas en tout cas répondre à nos sollicitations verbalement, ils ne peuvent pas exprimer leurs émotions verbalement. On est dans ce qu'on partage par contre, c'est un langage non verbal. Et ce qu'il y a en commun, du coup, c'est justement comment on va... c'est des émotions, hein, que elles soient primaires ou secondaires, peu importe, on ressent des émotions. Les situations qui génèrent ces émotions ne sont pas forcément les mêmes entre l'humain et un autre animal, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans cette idée qu'une même situation anxiogène pour nous le sera pour l'animal et vice-versa. Notamment aussi parce qu'une autre différence, c'est qu'on n'a pas les mêmes capacités sensorielles. Et donc, si on prend l'exemple du chien, le chien perçoit, alors que ce soit par l'olfaction en particulier, des choses qu'on n'a pas du tout la possibilité de sentir, parce qu'on n'a pas les mêmes nombres de récepteurs justement olfactifs. Et du coup, ils appréhendent des choses qui nous échappent et qui pourraient expliquer certaines réactions de leur part. Et nous, on a tendance à dire, je comprends pas, il est devenu fou d'un coup. Peut-être pas devenu
il a vu un fantôme.
Voilà. Il a certainement peut-être perçu des choses qui nous ont échappé. Et donc, oui, ils ressentent des émotions. Oui, ils ont des états mentaux, etc. Et ils raisonnent de manière extrêmement complexe, mais à partir de capacités sensorielles qui sont différentes des nôtres. Donc, on a de grandes similarités sur notre manière d'être avec l'environnement qui nous entoure. Mais j'allais dire de manière un peu différente. Parce que, que ce soit même d'un point de vue morphologique, on n'est pas fichu de la même manière, pas les mêmes capacités sensorielles et pas forcément les mêmes représentations aussi d'un environnement.
Donc, on sait que tous les animaux peuvent avoir des émotions.
Alors, on suppose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un système nerveux et ce qu'on a en commun avec la plupart, en tout cas, des mammifères, mais même des poissons, des oiseaux, c'est vraiment aussi un centre... On l'appelle presque le centre instinctif, mais c'est là où justement où se gèrent toutes les émotions. Et ce qui est difficile,
le système limbique.
Le système limbique, exactement. Mmh. Et du coup, ce qui est difficile, par contre, c'est de trouver des protocoles expérimentaux qui permettent de mettre en évidence ces émotions et puis ne pas se planter sur l'interprétation. Quelle émotion c'est précisément ? Parce qu'avec un humain, tu peux lui poser la question, mais avec l'animal, tu peux pas. Donc, tu fais tout le temps, de toute façon, ce qu'on appelle des inférences, des suppositions sur ce que tu observes. Tu ne pourras jamais en être sûr. Mais heureusement, l'avancée de la science et notamment des outils technologiques comme les IRM permettent maintenant d'avoir des données plus objectives. Je pense par exemple aux chiens qu'on est capable maintenant de tenir grâce à un entraînement éveillé dans une IRM, donc ils sont vigiles, et on leur diffuse un son avec une valence émotionnelle positive ou négative, puis on regarde comment leur système nerveux y répond, quelles sont les zones du cerveau qui s'activent, à quelle intensité elles s'activent. Et là, on peut avoir des données fiables sur, là, il y a le centre du plaisir, la récompense qui s'active, là, c'est le centre de la peur, selon ce que je lui montre, telle photo ou tel son.
Parce que tu arrives à lire son langage non-verbal, justement.
Là, justement, l'IRM permet vraiment d'avoir une idée.
D'associer les deux.
Voilà. Mm. C'est-à-dire que ça va corroborer ou non ce que tu as observé. Okay.
Donc, tu dirais que les chiens sont l'espèce sur laquelle les études sont les plus avancées en éthologie.
Alors, oui, il y a eu beaucoup sur les chiens, de manière plus récente sur le chat, et ça se multiplie, donc les animaux de compagnie. On en a quelques-unes quand même, les chevaux aussi quand même pas mal, mais c'est vrai que le chien a été très très étudié, et les insectes aussi. Alors c'est moins mon domaine justement, mais les fourmis, etc., ça a été quand même très 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 étudié également, les oiseaux.
Et quelle espèce on est plus en retard ? Ou en tout cas on met moins de moyens ?
Ouais. Alors les animaux de rente, c'est sûr que il y a beaucoup moins de recherches. Alors... pourquoi ? Parce que c'est vrai que si on commence à mettre en évidence, alors ça on le sait, mais qui ressentent des émotions, qui peuvent traiter les informations de manière aussi complexe que nous, qu'ils ont une théorie de l'esprit, ça va poser des problèmes éthiques considérables. Et c'est vrai que comme ce sont des animaux qu'on consomme, je pense qu'il y a là, il y a des conflits et des lobbies qui doivent être derrière et qui ne doivent pas financer beaucoup ces recherches-là. Ils n'ont aucun intérêt en tout cas.
C'est sûr. Et toi, personnellement, quel animal te fascine le plus ? Et quel est celui que tu as le plus étudié ? Donc je pense que c'est le chien.
Alors, au départ, pour tout te dire, moi, j'ai toujours adoré les félins depuis que j'étais petite, tout type de félins, mais en particulier les félins sauvages, que ce soit guépards, jaguars, etc. Et je voulais absolument faire mon doctorat là-dessus. Sauf qu'on m'a dit, mais attends, Sarah, un doctorat, c'est 3 ans. Il faut publier, c'est une obligation pour avoir ton doctorat, il faut publier des articles, donc avoir des données. Si tu travailles sur les animaux sauvages, tu risques d'en croiser un à l'année, par exemple. Donc tes données, tu vas en avoir très peu et il y aura peu de chances que tu arrives à publier. Donc garde ton idée pour plus tard, quand tu seras déjà chercheuse. Mais pour l'instant, ça sera plus facile que tu bosses sur des espèces qui vivent à nos côtés et qui sont faciles d'accès. Et donc au départ, je me suis dit, pas de souci, je prends un petit félin, je vais prendre le chat. Et à ce moment-là, parce que c'était en 2013 que j'ai commencé mon doctorat, le chat était peux quand même étudier parce que c'est hyper compliqué d'utiliser les chats en recherche parce que bah, lui demander de faire quelque chose ou de se mettre à cette place-là, bah, c'est beaucoup plus compliqué que le chien qui est plus docile et qu'on a voilà, sélectionné justement pour cet entraînement qui est bien plus évident. Et du coup, mon directeur de recherche m'a dit « Ah non, non, moi si tu fais sur le chat, je ne te suis pas, mais si tu veux, on fait une recherche sur le chien. La même chose que ce que tu voulais faire sur le chat, on le fait sur le chien. » J'ai dit « Bon bah, ok, pourquoi pas, j'aime bien les chiens aussi. Hein. » Et du coup, j'ai dit « Allez, partons sur le chien. » Et puis bon, bah, 3 ans après, il a suivi une étudiante qui a fait cette même recherche sur le chat. Donc, il s'est laissé convaincre. Mais tant mieux, je suis très contente.
Et là, du coup, qu'est-ce qui te fascine le plus, le chien ou le chat après étude du chien?
Ah, c'est... Alors, je reste... En fait, ce qui me captive, parce que c'est vrai que je n'ai pas répondu vraiment à la question sur les félins, c'est leur capacité à se mouvoir, tu vois, sans faire de bruit. Ils ont une façon, une souplesse dans leur mouvement que je trouve incroyable. Tu vois, je peux vraiment rester phasée sur des documentaires animaliers où tu les vois se déplacer sur des feuilles, tu vois, sèches, et pourtant ne faire aucun craquement pour choper leur proie. Et ça, je trouve ça très, très inspirant. En plus, moi qui suis sportive, j'adore l'escalade. Et mine de rien, c'est, voilà, ces déplacements d'une telle fluidité... Bah,
avec beaucoup de force dans très peu d'espace, finalement.
Exactement.
Ils restent très fins, donc proportionnellement, ils sont très puissants.
Ouais. Ah ouais,
très puissants par rapport aux chiens.
Ouais,
je suis d'accord. On va avancer dans ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec le docteur Thierry Bedossa et du coup, ta rencontre avec la médecine vétérinaire comportementale?
Bien sûr. Donc, en fait, en 2013, donc, je commençais ma thèse de doctorat. Et je travaillais donc sur, en fait, mon sujet de recherche, c'était le baby talk, cette manière qu'on a de parler un petit peu de manière gaga avec nos animaux de compagnie, et en particulier là, le chien pour ma recherche. Et je menais mes expérimentations à l'école vétérinaire de Maison Alfort, l'ENVA. Et puis, ma co-directrice de thèse, Caroline Gilbert, m'a dit, écoute, tu sais, nous, à l'hôpital qui est collé à l'école, le CHUVA, on propose des consultations de comportement pour les propriétaires qui ont des chiens et des chats et qui rencontrent des difficultés avec ces derniers. Je ne connaissais pas du tout ces consultations à ce moment-là, mais je n'avais jamais entendu parler. Je me suis dit, super, je vais aller voir comment ça se déroule. Donc, ils m'ont autorisé à y participer. Donc, c'était tous les mardis à cette époque. Et l'un des consultants, c'était le docteur vétérinaire Thierry Bedossa. Et puis, donc, au cours de ces consultations... Je voyais des humains qui étaient soit hyper contrariés, soit hyper tristes, soit frustrés du comportement de leur animal, dans l'incompréhension, tu vois. Ils avaient soit rencontré beaucoup de difficultés, soit ils se préoccupaient de son bien-être. Bon. Donc, je voyais aussi des humains, au-delà de l'animal, qui étaient très, très démunis. Et on était centré sur l'animal, essayer de comprendre qui n'allait pas potentiellement chez lui ou comment améliorer son bien-être. Mais c'est vrai qu'on se préoccupait peu au cours de ces consultations de l'humain, tu vois, de ses attentes, ses besoins, de ses émotions à lui. Et j'en ai vu beaucoup pleurer, tu vois, pleurer, mais que ce soit de soulagement ou de tristesse ou de colère, bon. Et en fait, on a beaucoup échangé à la fin de ces consultations avec Thierry. On se disait, mais ce serait intéressant de prendre en compte, comme on travaille sur de la relation, c'est vraiment une relation entre l'humain et son animal de compagnie, de faire un binôme, c'est-à-dire que moi, je puisse quand même aussi échanger avec les propriétaires, qu'ils aient un moment pour exprimer toute cette charge émotionnelle qui leur pèse parfois depuis des semaines. Et puis qu'on observe bien sûr l'animal et qu'on ait aussi une visée pédagogique à travers l'éthologie, c'est-à-dire expliquer voilà ce qu'on sait des besoins du chien ou du chat, de ses modes de communication, où en est la recherche là-dessus. Et puis qu'on ait bien sûr la médecine aussi vétérinaire qui est indispensable pour écarter une pathologie organique avant tout, avant de parler de comportement. Et donc on s'est dit, allez, on va commencer à bosser ensemble. Et lui m'a dit, écoute, au CHUVA, ça va être un peu compliqué, ils n'ont pas les moyens de prendre 2 consultants, sinon on l'aurait fait depuis un moment. Mais à ma clinique à Neuilly, si tu veux, moi je propose que maintenant, à partir de maintenant, on le fasse à 2. On fasse les consultations de comportement à 2. Et du coup, à la fin de mon doctorat, en 2016, on s'est mis à bosser ensemble. Donc voilà, ça fait plusieurs années maintenant qu'on mène ces consultations en binôme. Et c'est vrai que, à la fois, je pense pour les patients, j'espère, et pour nous, c'est très enrichissant.
Et donc, ce modèle de double consultation n'existait pas ?
Alors, pas à ma connaissance, pas directement. On avait des vétérinaires les plus ouverts du moins qui bossaient avec des éducateurs canins, par exemple, qui renvoyaient leurs patients vers d'autres professionnels. Mais un fonctionnement comme ça en binôme au sein d'une consultation, non, ni en France, ni à ma connaissance. Après, peut-être que certains ne parlent pas de leur pratique, ni à l'étranger en tout cas.
Oui, avec un focus un peu plus important aussi sur l'homme et relation homme-chien et pas que chien, enfin, ou chat.
Exactement.
Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail ce déroulement de la consultation avec le docteur Thierry Bedossa et puis le propriétaire et l'animal?
Bien sûr. Alors, en fait, la première partie de la consultation, tout a une importance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les propriétaires arrivent avec leur animal à la clinique, on peut déjà faire des observations de loin ou de près, c'est-à-dire qu'on peut, entendre le chien aboyer, par exemple. Donc on peut se dire, peut-être qu'il n'est pas à l'aise, tu vois, dans la clinique, avec les autres chiens qui sont présents, avec les autres chats qui sont présents, parce que dans cette clinique, la particularité, c'est qu'il y a beaucoup de chiens et de chats en liberté, qui sont très habitués à leurs congénères, et ça détend la plupart des animaux, mais c'est vrai que ça peut être surprenant. Et puis ensuite, donc, moi, je les reçois dans un premier temps, pour faire un petit point justement sur ce qui les amène, dans quelles conditions ils vivent, quel est leur environnement, que ce soit physique, relationnel, qui me parle un petit peu de d'où vient leur chien ou leur chat, où ils l'ont eu, et puis qui m'expose aussi un petit peu le motif de ce qui les amène à consulter. Et puis ça me permet aussi en parallèle, pendant que je les écoute, alors généralement je suis très mal polie parce que je ne les regarde pas, je regarde l'animal, d'observer un petit peu comment l'animal se comporte dans la salle de consultation. Ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours la même salle de consultation. Donc, tu peux comparer aussi les différents individus. Ça fait donc X années qu'on consulte dans cette même salle et on a l'habitude de voir différents chats ou différents chiens dans cet environnement qui est standardisé, en quelque sorte. Donc, pour identifier un peu les tempéraments de ces différents animaux, c'est intéressant. Et puis, ensuite, quand j'ai un peu balayé la problématique, je demande à Thierry de nous rejoindre. Et Thierry, donc, complète un petit peu les observations, c'est-à-dire qu'il peut aussi être amené à faire des mises en situation. Il peut par exemple demander à ses chiens d'entrer aussi dans la salle si on a un chien, voire un chat, s'il est tolérant des autres chiens. C'est des chiens qui sont très très entraînés, donc ils ont l'habitude et justement c'est intéressant de voir comment un animal réagit face à un chien qui sait très bien répondre, quelle que soit l'émotion que présente l'animal en face. Et puis, il peut venir aussi avec la mascotte de la clinique actuellement, qui est un perroquet, qui s'appelle Coco, et qui est aussi un super... alors, quand je dis outil, c'est pas le bon terme, mais dans le sens où c'est un élément intéressant aussi, parce que ça éveille la curiosité des chats ou des chiens. On peut regarder comment est-ce que ça les désinhibe un petit peu. Et puis aussi, c'est peut-être bête à dire, mais le fait qu'on soit Thierry et moi si différents, c'est un homme, je suis une femme, je suis un petit gabarit, j'ai une voix plutôt aiguë, et lui, c'est un homme avec un certain charisme aussi, avec une voix grave. Du coup, l'animal n'a pas le même rapport aussi forcément vis-à-vis de nous. On est deux personnes inconnues pour l'animal, mais aussi avec des caractéristiques différentes. Donc ça, on multiplie finalement les situations qui nous permettent d'avoir différents angles de vue sur l'animal et ses problématiques, et aussi vis-à-vis de l'humain, comment il réagit face à nous, comment il s'entretient à nous, ce qu'il ose dire, ce qu'il n'ose pas dire. Et en général, on demande aussi, je ne l'ai pas précisé au départ, est-ce que tous les membres du foyer soient présents, en tout cas dans la mesure du possible, parce qu'on n'aura pas forcément, tous n'auront pas forcément le même discours ou la même relation à l'animal, et c'est très intéressant d'avoir une vision systémique. Donc Thierry fait aussi de son côté des observations, et puis ensuite, on expose nos suggestions, tu vois, sur ce qu'on pense de l'animal, de la problématique et de ce qu'on imagine être les bonnes recommandations pour améliorer la raison qui amène les propriétaires à consulter. Donc, ce soit changer l'environnement ou proposer des activités à l'animal, changer son mode de communication avec lui. Bon. Et c'est intéressant aussi parce que ça veut dire qu'on a le point de vue de deux cliniciens. Alors, généralement, on s'accorde quand même sur nos recommandations, mais on pourrait aussi avoir des points de vue qui diffèrent. Et justement, on peut amener des arguments chacun pour pourquoi moi j'ai pensé à ça, pourquoi moi j'ai pensé à plutôt ça. Et on arrive toujours, en tout cas, à un consensus. Et puis ensuite, moi, je fais un compte-rendu complet de ce qu'on s'est dit au cours de cette consultation aux propriétaires que je leur transmets par mail. En général, les gens, on demande ce qu'ils ont retenu de la consultation pour être sûr qu'ils ont bien saisi tout ce qu'on a dit. Et on leur demande de nous tenir au courant dans les semaines à venir de l'évolution aussi de la situation, de nous envoyer le plus possible, s'ils ne l'ont pas fait en amont déjà ou pendant la consultation, de nous montrer des vidéos. Parce qu'une chose qui est plus difficile à appréhender, c'est comment l'animal se comporte dans son environnement, puisqu'on n'est pas au domicile là, des propriétaires. Et c'est de montrer des vidéos qui nous permettent d'objectiver un petit peu ce que relatent les propriétaires, parce que ce qu'ils relatent, c'est leur vision des choses, qui est mêlée forcément de leur subjectivité. Et du coup, parfois, ils se plantent totalement. Donc, parfois non, mais c'est des éléments qu'on prend de toute façon en compte. Et donc voilà, les vidéos, c'est vraiment un appui très important. Et maintenant, grâce au smartphone, bah, c'est hyper facile hein, d'envoyer comme ça du contenu média. Donc on s'appuie aussi beaucoup dessus. Et enfin, comme on est vraiment dans une approche interdisciplinaire, déjà entre nous, mais on travaille aussi en collaboration avec d'autres professionnels si besoin, c'est-à-dire des éducateurs canins, s'il y a l'éducation, de la rééducation plus généralement à réaliser, des promeneurs, beaucoup, hein, parce que bon, bah, nous on travaille en milieu urbain et puis l'un des gros mâles du siècle, c'est le manque de dépenses physiques et cognitives des chiens notamment. Des pet-sitters, mais aussi des personnes qui travaillent des naturopathes ou des personnes qui travaillent avec des huiles essentielles, des ostéopathes, beaucoup aussi, et des masseurs canins aussi, ou félins, c'est possible. Enfin voilà, un panel de professionnels en qui on a confiance, on a un réseau bien garni, et puis ça nous permet vraiment voilà, d'avoir une approche holistique pour l'animal et ses propriétaires.
Et est-ce qu'il t'arrive de pointer du doigt des dysfonctions dans la dynamique familiale de l'animal ou une dysfonction comportementale, mais plutôt d'un humain ? J'imagine que oui, avec ta formation. Est-ce que vraiment c'est ton rôle de l'observer et après d'en faire part ? Et si oui, comment tu fais part de ça, sachant que bah, il venait à la base pour le chien et ça peut être entendu de façon de différentes manières. Je pense que si on ne s'attend pas à ça, si on n'attend pas de conseils sur ce côté-là, ça peut être tendu.
C'est une super question. En fait, à l'avance, de toute façon, ils savent qu'on est deux cliniciens et que je suis psychologue parce que je les préviens toujours à l'avance par message en leur indiquant pourquoi on est deux et comment va se dérouler la consultation. Oui, l'idée, c'est pas de faire une consultation psy, c'est pas du tout l'objet. Et généralement, si je perçois qu'en effet, ce serait intéressant de faire que l'humain qui accompagne l'animal fasse un travail sur lui ou qui ait même un travail, une thérapie systémique familiale, donc qui soit mise en place, je me sens, et ça peut-être que Thierry se sentait pas justement, mais je me sens plutôt légitime pour l'exposer, mais je le fais toujours avec mesure du possible, beaucoup de tact, en disant, mais voilà, comme vous êtes en relation avec l'animal et qu'il existe, on le sait grâce justement à l'avancée de la science, des phénomènes de contagion émotionnelle entre l'humain et l'animal, ben, pour participer justement à l'évolution de votre animal et à ses problématiques, il faut aussi que de votre côté, vous puissiez prendre soin de vous, les uns des autres, ou vous-même. Je les dirige vers des consoeurs ou des confrères avec qui on a l'habitude de travailler. Et je leur dis que c'est quand même ce qui est vrai, hein, que ça peut être assez courant aussi, que ce n'est pas quelque chose qui est une caractéristique de cette famille. C'est que bah, c'est comme un autre membre de la famille, l'animal. Et donc, il peut en effet souffrir de dysfonctionnements ou de tensions qu'il peut y avoir au sein de la famille. Donc, c'est tout à fait normal. En général, quand Thierry sent aussi, parce que bon, bah, il a plus d'expérience que moi, plus de maturité, même s'il n'avait pas une formation en psychologie, bah, il a aussi un bon sens. S'il voit qu'il y a des problématiques un peu psychologiques qui sont associées, il prend congé à ce moment-là et puis il me laisse continuer spontanément. Il dit, bah, voilà, maintenant, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, je vous laisse vous entretenir un petit peu avec Sarah. Bon, bah, c'est un message un petit peu pour me dire, bah, peut-être creuser un petit peu. Et généralement, on a pris le temps quand même, au bout d'une heure, de si c'est une relation à minima hein, de confiance, ou en tout cas ils se sentent libres d'exprimer ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ressentent sans jugement, sans avoir l'appréhension d'être jugé du moins. Et du coup, j'ai toujours eu des personnes qui, même spontanément, vont dire « mais c'est peut-être aussi moi, parce que je sais que je suis très anxieuse ou très stressée, qui a un impact sur l'animal ». Alors, j'ai envie de dire, peu importe, hein, je ne vais pas leur dire ah « oui, c'est à cause de vous que votre animal est comme ça ». Déjà, ce n'est pas vrai, généralement, ce n'est jamais à sens unique comme ça. Et puis, je ne vais pas dire à la personne bah, « oui, arrêtez d'être stressé, il ira mieux ». Voilà, ouais. Ce n'est pas du tout l'idée, on est dans un cadre bienveillant, on veut que le foyer aille mieux. Et donc, c'est non, les encourager plutôt à dire « bah ouais, ce n'est pas facile aussi dans les conditions dans lesquelles vous vivez, dans lesquelles on vit de manière générale actuellement, il y a beaucoup de facteurs anxiogènes, donc c'est normal aussi et c'est important de prendre soin de soi et prendre ce temps-là. » Prenez pour votre animal, il faut aussi le prendre pour vous éventuellement. Mais ce n'est pas systématique, hein, loin de là, attention.
Tu as parlé de contagion émotionnelle, tu fais très bien le lien avec ma prochaine question. Dans quelle mesure les émotions, donc les énergies du propriétaire, ont un impact sur l'animal et son comportement ? Et est-ce que la science nous permet d'objectiver ces données ?
Oui, là on a beaucoup justement de recul, parce qu'il y a beaucoup d'études là-dessus, en particulier donc sur le chien et le chat et leur rapport à l'humain. Donc ça a été montré qu'il existe une contagion émotionnelle, mais dans les deux sens, c'est-à-dire que ça peut être des émotions positives et les émotions entre guillemets qualifiées de négatives, donc l'anxiété ou la tristesse.
Et j'imagine dans les deux sens aussi, et dans de l'homme à l'animal et l'animal à l'homme.
Enfin, complètement.
Tout tourne.
Complètement. Et puis en plus, on vit ensemble, donc c'est-à-dire que on est confronté au même environnement, aux mêmes agents stresseurs externes, par exemple. Donc c'est tout à fait possible qu'un chien et un humain réagissent de la même façon aussi à l'environnement. Je pense aussi, les chiens et les chats sont très sensibles à nos changements aussi hormonaux. Donc il y a bien sûr les émotions en tant que telles, les états émotionnels, mais il y a aussi tout ce qui est lié au cycle hormonal ou alors à la prise de médicaments. Tu vois, parce que les médicaments, ça aussi provoque des changements...
De l'homme, là, tu parles.
De l'humain. Okay. Mais ça peut être dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que l'animal peut aussi être affecté par la prise de certains médicaments, molécules, qui ne sont pas anodines, et la prise de substances comme de l'alcool ou des choses comme ça. Alors ça, on a moins de données scientifiques là-dessus, mais par contre, d'un point de vue empirique, expérientiel, on sait que les chiens, par exemple, peuvent se montrer plus agressifs vis-à-vis de personnes qui sont éméchées, enfin voilà, qui ont bu, quoi, tout simplement, parce qu'ils perçoivent nos micro-signaux à une rapidité extraordinaire, et puis qu'ils sont aussi capables, grâce à leur odorat notamment, de sentir justement la présence de ces substances et les changements qu'elles induisent.
Est-ce que tu penses qu'il serait intéressant, selon toi, d'initier les professionnels animaliers, donc je pense à moi qui suis ostéopathe, à la psychologie humaine, afin de mieux comprendre les propriétaires des animaux ? Ou est-ce que cela peut nous apporter un trop-plein d'informations qui seraient inutiles, voire délétères, et fausseraient notre analyse de l'animal ?
Alors, je ne sais pas si une formation en psychologie est fondamentale. En tout cas, ce qui me semble très important, c'est... de plutôt, tu vois, la sensibilité qu'on a vis-à-vis des animaux, d'essayer toujours de comprendre ce qui a motivé un comportement, tu vois, pourquoi un chien ou un chat m'a griffé, m'a mordu. On se demande toujours, je suis peut-être allée trop vite, ou peut-être qu'il n'est pas assez familier des humains, peut-être que voilà, c'est ses expériences, tu vois, précoces ou pas, qui l'ont rendu méfiant. C'est marrant parce que c'est des interrogations qu'on se pose beaucoup moins vis-à-vis des humains. C'est-à-dire que tu vois, t'as un humain qui est agressif avec toi, d'un coup, t'es pas en train de te dire qu'est-ce que j'ai fait qui a pu, tu vois, l'amener à être aussi virulent vis-à-vis de moi ou quelle expérience il a pu vivre. Et du coup, je me dis plutôt, tu vois, moi, ça m'a énormément aidé l'éthologie pour ça. C'est prendre le temps d'observer l'humain autant que le temps que je passe à observer l'animal, de manière aussi finement, enfin aussi fine tout simplement, et à me poser les mêmes questions, tu vois, à essayer d'être aussi indulgent, ce qui n'est pas toujours facile quand c'est nos congénères, mais je ne sais pas pourquoi on accorderait là aussi plus de respect vis-à-vis de l'animal, pourquoi on ne serait pas aussi respectueux de l'humain, parce que ça va dans les deux sens en fait. Moi je prône, on a souvent ces excès, tu vois, quand on est à fond dans la protection animale, il y en a énormément qui ne peuvent plus saquer les humains par exemple. Ben ouais, mais c'est aussi un être vivant qui a aussi eu son développement, qui a eu ses expériences positives ou négatives. Et du coup, c'est pas tant voilà, une formation pour essayer d'identifier des pathologies humaines, parce que déjà, les pathologies, il n'y en a pas tout le temps. Et puis, c'est plus prendre le temps d'écouter, peut-être savoir écouter, parce que ça s'apprend. Écouter, c'est pas quelque chose inné. C'est difficile d'écouter sans juger, par exemple aussi, d'écouter pleinement ce que la personne dit, se mettre à sa place. Donc, voilà, peut-être comme ça des petits tips sur plutôt l'écoute bienveillante ou tu vois la communication non violente, parce que c'est intéressant pour favoriser le discours et t'as besoin des informations, t'as besoin de l'alliance que tu crées avec le patient humain.
On est bien obligé puisque c'est le porte-parole de l'animal.
Exactement.
Donc il faut qu'on l'écoute activement et de façon bienveillante comme
ouais.
Tu dis.
Donc ça, je pense qu'en effet, ça peut être des enseignements qui sont fondamentaux. Et puis en éthologie aussi, parce que toutes les écoles ne proposent pas de cours d'éthologie sur les espèces étudiées, et notamment sur le comportement, les manifestations comportementales, tu vois, d'une émotion, pour savoir reconnaître et appréhender justement un chien qui tout un coup se montre méfiant ou a peur et qui pourrait mordre, ou un chat pareil, parce qu'on allait trop vite, parce qu'on n'a pas pris le temps de bien observer ces micro-signaux qui parfois passent souvent à la trappe parce qu'ils sont très subtils. Donc voilà, et j'encourage aussi tous les étudiants et les professionnels ou futurs professionnels à suivre que ce soit des formations, il y en a des DU en éthologie, il y a des bouquins et il y a des congrès, et ça j'aurai l'occasion de parler, mais c'est vrai que nous on organise avec l'Université Paris-Nanterre un congrès qui est interdisciplinaire justement, dédié aux animaux de compagnie, Pet Revolution. Et c'est un congrès, peut-être que j'en dirai quelques mots à la fin de ce podcast.
Merci, ouais, c'est hyper intéressant. Y a une question qui me vient, qui n'était pas prévue, c'est sur les émotions du chien, est-ce que, ou du chat d'ailleurs, est-ce qu'ils ont le même spectre d'émotions que nous? Est-ce qu'il y a des émotions en plus qu'on ne pourrait pas qualifier chez l'humain et inversement?
Alors, des émotions qu'ils présenteraient et qu'on n'arriverait pas à appréhender chez l'humain, je n'en connais pas comme ça. C'est possible, hein, tout à fait, hein, qu'il y ait des nuances et des subtilités qu'ils auraient et qu'on n'arrive même pas encore à qualifier. Des émotions qu'on aurait et qu'ils n'ont pas, c'est plutôt, je ne sais pas s'ils ne les ont pas, c'est qu'on a du mal à trouver des protocoles qui permettent de les mettre en évidence. Tu vois, je pense à la jalousie, à l'envie, à la frustration, des choses comme ça. C'est des émotions qui sont extrêmement complexes, tu vois, à observer, trouver un moyen de rendre compte de cette émotion chez l'animal. Donc, le bon sens dirait, bah oui, moi j'ai déjà constaté que mon chien était jaloux quand je caressais plus un autre, etc. Mais bah pour la science, en tout cas, c'est juste compliqué de généraliser, de trouver une manière de standardiser un protocole et de retrouver cette émotion chez un effectif important de chiens. Donc certainement qu'ils partagent la majorité, voire toutes les émotions que nous aussi on présente. Maintenant, en tout cas, d'un point de vue scientifique, et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas d'un point de vue scientifique, on a du mal à le mettre en évidence. Mais encore une fois, la science n'explique pas tout, heureusement.
Non, puis la science, c'est ce qu'on veut mettre en avant, c'est les moyens, et puis c'est dans notre système de pensée à nous, mais il y a plein de choses qui sont hors de notre monde, et du coup, qu'on ne peut pas quantifier. Et du coup, c'est impossible.
Complètement, ouais. Puis c'est vrai qu'il y a des choses avant, tu vois, même quand on pensait que la Terre était plate, bon, ben, la science a évolué, donc il y a peut-être des choses qu'on ne comprend pas aujourd'hui, on n'a pas encore les moyens même de les expliquer, et peut-être qu'on comprendra bien plus tard, donc il faut rester vraiment humble face au vivant.
Comment différencier les comportements indésirables d'un animal qui serait dû à une adaptation physique ou environnementale d'un comportement indésirable qui est plutôt dû à une vraie maladie mentale?
C'est une très bonne question. Alors déjà, si on reprend justement ce que nous dit la littérature scientifique, on n'a pas de données sur des pathologies mentales chez, en tout cas, le chien ou le chat. Déjà, en psychiatrie humaine, c'est très controversé et ça ne cesse d'évoluer. C'est-à-dire que, ah oui, on peut parler de dépression, de troubles anxieux, mais quand on va sur les terrains de, tu vois, schizophrénie, on ne sait pas encore quelle est l'origine, on ne sait pas si ça se manifeste pareil chez tous les individus. Donc, moi, j'aime bien l'idée sur quoi reposait au départ la zoopsychiatrie, au départ, en tout cas, sur le principe de, bah, comme les animaux partagent nos émotions, il est possible qu'ils souffrent des mêmes troubles. Ok. Mais ce qui m'embête, c'est que parler de troubles, c'est un peu mettre déjà une étiquette à un animal. Et puis, c'est rarement purement interne. C'est-à-dire, tu vois, c'est rarement purement lié à un dysfonctionnement, justement, neurologique. Ou dans ce cas-là, c'est facile à identifier, pour le coup. Et on se rend compte que, bah voilà, en changeant généralement l'environnement ou une relation, eh ben, ces manifestations comportementales problématiques disparaissent. Et moi, ce qui m'embête, c'est quand tu parles de troubles, de manière générale, c'est souvent associé après à un traitement moléculaire, tu vois. C'est le principe du DSM chez l'humain, du diagnostic, du manuel diagnostique qui regroupe les maladies mentales humaines. C'est-à-dire que, bah voilà, si tu présentes un certain nombre de symptômes, bah tu rentres dans cette catégorie, mettons dépression, trouble dépressif, et puis ben t'as un traitement associé, un traitement psychotrope. Moi, ça m'embête beaucoup beaucoup d'appliquer ce même modèle qui déjà est un peu controversé, ou en tout cas que moi je ne partage pas forcément pour l'humain, aux animaux. Surtout qu'en plus, bah, c'est notre responsabilité de leur donner ou non un traitement. Et là encore, c'est empirique, mais j'ai, tu vois, en combien, 4, 5, 7 ans maintenant de consultation, y a, à chaque fois qu'on a suggéré des modifications de l'environnement, bah, la problématique disparaissait. Alors par contre, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que oui, être dans un environnement défavorable de manière répétée, tu vois, ce qui génère un stress chronique, oui, ça va conduire à des modifications de sécrétion, par exemple, hormonale. Et oui, tu peux avoir un animal apathique, anxieux, dépressif. Mais ce n'est pas forcément irrémédiable. Et les molécules ne sont pas le seul recours. Je n'ai rien après contre les molécules dans l'absolu, c'est-à-dire que ça peut être aussi un levier dans certaines situations, tu vois, quand l'animal ne peut plus s'alimenter parce qu'il est tellement anxieux, parce que...
En cas d'urgence,
voilà. Mais je le vois plus comme un levier et à court terme.
Voilà. Avec, dans l'épisode précédent avec Clem Richard de l'école de la Meute, on a vu rapidement cette question parce que c'est pas son métier justement, mais la question c'était à quel moment médicamenter, et lui, il nous répondait à partir du moment où, en fait, on ne peut plus changer les paramètres environnementaux, par exemple un chien qui a peur de la ville et que les propriétaires ne veulent pas déménager et qui ne sont pas d'accord pour un replacement.
Ouais, et ben alors c'est vraiment des questions éthiques. Et par exemple, alors tu poseras la question à Thierry, ce sera intéressant si tu es amené à l'interroger. Ce serait de lui demander, ben, est-ce que si les propriétaires te demandent de médicaliser l'animal parce qu'ils ne sont pas d'accord pour un replacement et ils ne veulent pas changer leur environnement, qu'est-ce que tu fais ? Il est libre de refuser aussi et d'orienter, bah écoutez, moi non, je suis pas d'accord parce que votre animal, il va très bien. Voilà, je vous suggère d'aller voir un autre confrère, par exemple. Mais je pense que c'est au cas par cas aussi. Hein. Je serais curieuse justement d'avoir sa réponse. Mais c'est des vraies questions éthiques. Est-ce que parce que le propriétaire ne veut pas changer d'environnement, est-ce qu'on impose ça à l'animal ou pas ? C'est les mêmes problématiques qu'on peut se poser avec des enfants aussi, hein, ou avec des adultes d'ailleurs. Mais c'est, en tout cas, voilà, attention au recours aux molécules, parce que ce qui m'embête, moi, c'est que c'est une solution, entre guillemets, qui peut être considérée aussi comme facile et miracle. Hein. C'est-à-dire que bah, pour les propriétaires qui vont consulter parce que leur chien ou leur chat ne va pas bien, on leur dit, mais oui, ils souffrent de ça, et c'est un TDAH, parce que vraiment, on emploie les mêmes termes hein, que pour, les pathologies humaines. Il est voilà, hyperactif, votre chat est sociopathe, ça existe aussi, attention.
Ouais, j'avais entendu schizophrène, dépression, etc. Donc ça, c'est des petites questions que je me garde pour Dr Thierry Bedossa, qui est vétérinaire comportementaliste et qui pourra développer vraiment sur les pathologies mentales du chien si elles existent.
Voilà, et ça m'embête terriblement, parce que donc, les propriétaires qui consultent et on leur dit ça, bah voilà, en effet, votre animal a une maladie mentale, vous n'avez pas à vous remettre en question, oui. Vous n'avez pas à changer l'environnement ou à bouleverser quoi que ce soit dans votre rythme de vie.
Ça arrange tout le monde un petit peu.
Et le changement peut, attention, être rapide. Bah ouais, hein, si tu colles une molécule à une dose très élevée, l'animal peut être totalement léthargique. Et c'est sûr qu'il va poser moins de problèmes, tu vois. Est-ce qu'il est mieux ? Ça, par contre, je suis pas convaincue.
On développera tout ça dans le prochain numéro avec Dr Thierry Bedossa, c'est trop bien, ça étoffe un petit peu ma liste des questions. Alors, grande question encore, qu'est-ce que l'anthropomorphisme et faut-il l'éviter ? On note une tendance à appeler nos animaux par des prénoms humains, leur acheter une garde-robe, nous faire appeler, nous propriétaires d'animaux, papa ou maman. J'ai vu qu'il y avait une étude d'un professeur en Pennsylvanie qui conclut qu'on n'aurait pas d'animaux de compagnie si on ne faisait pas un petit peu d'anthropomorphisme.
Alors l'anthropomorphisme, c'est la tendance à attribuer à une autre espèce que la nôtre des émotions et des intentions qui seraient les mêmes que les nôtres. Donc il y a du bon et du moins bon, je dirais, dans l'anthropomorphisme. Alors d'une part déjà, on ne peut pas faire autrement hein, que d'avoir notre prisme d'humain. Déjà, c'est naturel. Ça nous a permis quand même de supposer que l'animal pouvait ressentir comme nous voilà, des émotions ou être affecté par les mêmes situations potentiellement. Donc, en ce sens, quand on fait de l'anthropomorphisme, on met l'animal au même niveau que nous. Donc ça, c'est intéressant. Déjà, c'est une preuve que l'animal n'est plus une machine ou un bien, tu vois. C'est le
maître... Peut-être pas pour tous les animaux, d'ailleurs. Exactement. Juste pour les compagnies. Et encore, pas tous les nacs, etc.
Complètement. Il y a encore du boulot. Et l'autre côté, ça serait de... Enfin, l'excès, ou en tout cas le revers de cet anthropomorphisme, c'est d'imaginer qu'ils ressentent exactement les mêmes émotions, dans les mêmes situations, qu'ils perçoivent les mêmes choses. Parce que non, attention, chaque espèce a son monde sensoriel propre. Ce qu'on appelle le terme scientifique, c'est Umwelt. C'est un terme allemand, mais que je trouvais intéressant pour dire, attention, oui, on peut partager, on partage certaines similarités en termes d'émotions et de ressentis, mais pas forcément les mêmes et pas forcément dans les mêmes environnements. Donc, le fait aussi de considérer, tu vois, d'attribuer des petits noms affectueux ou d'habiller nos animaux, ça me pose pas de problème si l'animal d'une n'en souffre pas, parce qu'il y en a qui le supportent très bien, d'autres beaucoup moins, donc il faut être attentif à chaque individu et comment il ressent ça, comment il vit ça. Et tant qu'on garde à l'idée que, même si on le considère comme notre enfant, mettons, notre ami, si on lui attribue la même affection, mais je vois pas de problème, tant qu'on a conscience que c'est une espèce différente, qui n'a pas les mêmes besoins, et que du coup on ne l'identifie pas à un individu de la même espèce que la nôtre. Du coup, parce que l'amour ne suffit pas, hein, c'est super hein, d'adorer son animal, mais comme il n'a pas tout à fait les mêmes besoins, eh ben, on pourrait manquer d'y répondre si on le considérait comme un individu humain. Donc la limite est ça, vraiment prendre conscience, on peut l'aimer autant, mais prendre conscience que ce n'est pas la même espèce.
Donc c'est pas mal l'anthropomorphisme. En fait, il faut juste après mettre le curseur au bon endroit.
Toujours une question de juste mesure. De toute façon, généralement, les excès sont à éviter et toujours trouver voilà, un juste milieu. Ouais.
Alors, question peut-être un petit peu bête, mais j'avais envie de la poser. Est-ce qu'un chien peut-il être raciste, mais raciste dans le sens des races de chiens ? Je pense à ma chibette, petite race primitive, qui peut facilement ignorer les autres races, donc elle va les voir, les sentir et puis repartir, et puis être vraiment hyper contente et jouer avec des chibas en balade chiba.
Oui, en fait, alors c'est, on peut dire du racisme, mais en fait, c'est souvent, très souvent, un manque de familiarisation au départ, de socialisation avec d'autres races que la sienne. Alors, par exemple, généralement, quand on va aller chercher en élevage, ça arrive hein, qu'ils cohabitent avec d'autres races qui sont aussi qui appartiennent à l'éleveur. Mais souvent aussi, on a un élevage avec une seule race. Et du coup, c'est vrai que pendant toute la période où ils font un grand nombre d'apprentissages, où c'est vraiment les périodes sensibles, où ils ont besoin de rencontrer des congénères de gabarits, de tempéraments différents, ils voient que des congénères qui leur ressemblent. Et puis, on a quand même entre les races des tendances comportementales. Donc, ils ont l'habitude de voir des individus qui se comportent de telle et telle façon. Et puis d'un coup, quand ils changent d'environnement à l'adoption, ils se retrouvent face à croiser dans la rue d'autres congénères qui n'ont pas du tout le même morphotype, qui n'ont pas du tout le même tempérament, la même manière de jouer, de dire bonjour. Et du coup, là, ça peut être soit ils ignorent en effet parce que ça ne les intéresse pas, soit ils peuvent se méfier. Et donc ça arrive très souvent et c'est de la même chose que les chiens qui vont avoir crainte certains humains. Parce que, pareil, dans leur environnement, ils ne sont pas développés, je ne sais pas, proches de personnes âgées ou d'enfants, tu vois, ou de personnes en situation de handicap.
Un homme à capuche, c'est ce qui ressort souvent, alors que certains n'ont pas été traumatisés par un homme à capuche.
Mais c'est simplement un attribut nouveau qu'ils n'ont pas eu l'habitude de rencontrer au cours de leur développement. Donc, et puis après, il y a aussi, juste au-delà de la familiarisation ou socialisation précoce, il y a l'idée aussi de, voilà, je le répète, de tendance comportementale. Et donc, peut-être que les Shiba vont être plus à l'aise avec d'autres Shiba parce qu'ils ont cette même manière de jouer, tu vois, ou de se présenter, ou de rester, tu vois, au contraire, assez indépendant. Et puis, on sait qu'il y a des races qui sont plus brutes dans le jeu, d'autres qui sont plus un peu fragiles, vulnérables. Et ça peut aussi jouer dans les préférences. Et puis, préférences d'un groupe d'individus, puis après, il y a des préférences individuel, quoi, un tempérament qui est propre à chaque individu, bien sûr.
Ces derniers temps, on note un boom dans les avancées de l'éthologie, notamment de la compréhension du chien. On voit une vague d'éducateurs canins travailler en positif. On voit fleurir de nombreuses études scientifiques. Et avec tout ça, comment peut-on expliquer qu'une ville comme Paris soit-elle si peu dog-friendly ?
Alors, c'est une bonne question, là encore. C'est-à-dire que nous, on est pas mal en relation avec la mairie de Paris, notamment. Donc, on a conscience des problématiques qu'ils rencontrent. C'est qu'il y a d'une part, en effet, cette volonté d'accueillir le mieux possible les chiens ou les chats. Mais il y a tout un penchant de la population aussi qui n'est pas du tout dog-friendly. Donc, par exemple, cette idée de il faut qu'il y ait des parcs à chiens, par exemple, au centre-ville, parce qu'ils n'ont pas envie, les propriétaires de chiens, de faire des kilomètres pour accéder au parc à chiens.
Ouais, d'aller à Boulogne ou Vincennes, en gros.
C'est ça. Mais les parcs à chiens, c'est des nuisances sonores non négligeables. Et ils sont souvent en bas d'habitation. Et donc, pour des personnes, soit qui n'ont pas de chiens, soit qui ont des chiens, mais qui ont envie d'être tranquilles à la maison, ou qui font du télétravail, ils entendent des aboiements non-stop parce que ce n'est pas encadré, et parce que les chiens se défoulent à ce moment-là. Je peux comprendre, hein, de leur point de vue, en tout cas, que ce soit insupportable. Et du coup, il y a les plaintes des personnes qui subissent ces nuisances sonores, les plaintes des personnes qui disent « Ah ouais, mais nous, les parcs canins, on veut que ce soit proche de la maison et pas excentré. »
On a le pourcentage des non-dog-friendly et des dog-friendly?
Non, je le connais pas. Non. Je le connais pas, mais en tout cas, il suffit qu'il y ait même peu de personnes, hein, que ça dérange. Oui. Mais voilà, qui vit au-dessus, il va pas déménager, tu vois, c'est un peu galère. Donc, je pense que c'est pas un manque de volonté de la mairie, tu vois, parce qu'ils sont en réflexion avec les éducateurs canins, avec les promeneurs, avec, bien sûr, les habitants de la ville. Je pense juste cet exemple, mais je pense que c'est pareil pour toutes les mairies. Et je sais qu'ils essayent tant bien que mal, ou même par exemple pour la gestion des chats errants, il y en a qui disent mais il faut arrêter de les nourrir, d'autres qui disent les nourrir parce qu'au moins on va pouvoir les stériliser. Pour certains, c'est des nuisances, pour d'autres, au contraire, ils veulent au contraire en accueillir le plus, mais dans les conditions favorables aussi. Donc, nous on a notre vision parce qu'on est sensible à ça, on adore les animaux, mais il y en a qui n'aiment pas aussi les animaux. C'est un foyer sur deux qui possède un animal de compagnie, il y a le reste aussi.
C'est sûr. Ok, non mais je ne savais pas qu'il y avait autant de réflexions à ce sujet-là. Dans un article récent de 30 millions d'amis qui met en avant une étude sortie le 29 avril 2022, Le caractère du chien ne dépend pas de sa race. C'est le titre de l'article. Je cite, presque aucun comportement généralement associé à une race de chien n'est véritablement inné, observent des chercheurs américains. L'environnement semble jouer un rôle plus prépondérant que le pédigré. Qu'en penses-tu ? Je pense que tu as un peu répondu tout à l'heure avec l'histoire du racisme. Et est-ce qu'on peut définir aussi le mot caractère pour un chien ?
Cette étude, elle est intéressante quand même. En fait, il y a les deux. Il y a bien sûr une partie génétique, on ne peut pas la nier du tout, surtout chez le chien, qui est l'espèce qui a été la première domestiquée et surtout qui a subi une sélection artificielle extrêmement intense pour des fonctions bien précises, la chasse, la garde de troupeaux, la conduite de troupeaux, etc. Et du coup, on n'a pas eu des changements monumentaux dans la sélection qui est faite actuellement lorsqu'on veut un chien de compagnie, c'est-à-dire qu'il y a toujours des lignées de travail et des lignées de beauté. Et que le problème, c'est que si on travaille sur le comportement pour avoir des animaux plus aptes, entre guillemets, à vivre en tant qu'animaux compagnons, on risque en tout cas de changer l'apparence physique, parce que les gènes sont liés. Si on change un comportement, on peut changer aussi la robe du chien. Et du coup, ils vont être moins attrayants, en tout cas pour ceux qui veulent en acheter, parce qu'ils veulent quand même ce chien qui ressemble à ça. Donc c'est une vraie problématique pour les éleveurs aussi, et puis c'est une complexité génétique très importante. Et je suis aussi d'accord, en effet, et ça se confirme dans nos expériences, qu'il y a une influence considérable aussi de l'environnement, c'est-à-dire ce qu'on appelle les facteurs épigénétiques, l'influence de l'environnement, en particulier lors des premières semaines de développement de l'animal, là où son cerveau est encore très flexible, où il est modulable vraiment, et il engrange un grand nombre d'informations, et c'est dans ces périodes bien défini que l'animal doit être exposé au plus grand nombre de stimulations possibles pour ne pas craindre la nouveauté, pour pouvoir s'adapter à toute situation. Et du coup, voilà, il y a l'héritage quand même de la sélection artificielle qu'on ne peut pas mettre de côté, et ça c'est la partie qu'on considérait comme innée, mais par contre, deux individus par exemple d'une même lignée, tu vois, qu'on placerait dans des environnements différents, ne vont pas se développer de la même façon, ça c'est sûr. Et j'allais dire aussi, deux individus qu'on met dans le même environnement peuvent se présenter aussi des différences.
Oui, parce comme
que
des frères et sœurs.
Exactement, parce qu'il y a aussi des différences inter-individuelles, heureusement. Mais c'est vrai que le poids de l'environnement physique, l'environnement relationnel et des expériences de vie de l'animal vont avoir une influence considérable sur une base génétique initiale. Donc oui, on ne peut pas dire qu'en tout cas, un chien de telle race va être comme ça. Par contre, il y a quand même des tendances comportementales qui se confondent un peu avec cette idée de caractère.
C'est ce que tu disais tout à l'heure, tendance.
Oui. Et des tendances, voilà. Et après, donc encore une fois, je ne résume pas du tout, je ne vais pas dire qu'une race, que tous les individus de même race vont avoir les mêmes tendances. Non, il y a des différences, bien sûr, entre les individus. Mais comme il y a eu une sélection, en tout cas commune, sur une fonction qui a été intense, on retrouve quand même des caractéristiques communes. Et alors le caractère, pour répondre à cette question, caractère, moi, je l'associe plutôt au terme tempérament, c'est-à-dire que et le tempérament justement il dépend de ces facteurs génétiques et épigénétiques, c'est-à-dire que ça se construit au fur et à mesure de la vie de l'individu avec son bagage génétique et les expériences de vie auxquelles il aura été confronté, et du coup ça va être par exemple un chien qui va être plutôt téméraire, plutôt explorateur, curieux, d'autres qui vont plutôt être introvertis, tu vois, timides, d'autres qui vont être amicaux avec les personnes inconnues, d'autres qui vont être un petit peu plus craintifs, et tu vois tout ce que je décris là. C'est pas que l'inné, ça dépend aussi des expériences qu'il a eues. S'il n'a jamais vu de personne, tu vois, un chien qui n'a jamais vu d'autres congénères que ses shibas de la même portée, il va peut-être être méfiant. C'est son tempérament, certainement, mais c'est lié aussi à ses expériences, ou en tout cas manque d'expérience pour le coup.
Du coup, tu es d'accord sur le fait que l'environnement a un rôle plus important que la génétique ?
Moi, je dirais qu'il y a un potentiel de base qui peut s'exprimer ou non en fonction de l'environnement. Je crois que j'arriverai pas à dissocier les deux. Heureusement que l'environnement a une influence très importante et que tout dépend pas de la génétique, ça je suis d'accord, parce que du coup il y a un travail, tu vois. Si tu dis merde, ce chien là ça fait des années qu'il est sélectionné pour le combat, heureusement qu'on peut changer les choses et qu'il est pas condamné à vouloir toujours aller à la castagne.
Non mais c'est super intéressant, ça veut dire aussi que on peut tout faire avec n'importe quel chien. Pas tout, mais on pourrait.
Oui, avec plus ou moins
de caractère. Après.
Avec plus ou moins de facilité. Voilà. Tu vois, si je pense à un Malinois qui a été entraîné depuis des générations à être réactif, impulsif, parce que c'est ce qu'on leur demande, notamment dans l'armée, Si tu veux le confier à ta grand-mère, tu vois, et que ce soit un chien de canapé, je pense que même le travail, tu vois, qui va être réalisé, etc., pour essayer de, tu vois, même le mettre dans les conditions, même si, tu vois, dès qu'il est chiot, tu le mets dans ces conditions-là, à pas trop être stimulé, je pense que ça va être compliqué. Il y a quand même...
Mais du coup, ce dynamisme, ce trop-plein, enfin, c'est pas ce trop-plein, c'est cette forte quantité d'énergie qu'un malinois, ça fait pas partie du caractère ou ça fait partie du caractère? Parce que c'est pas vraiment un tempérament, si?
Si, c'est... Bah, là, pour le coup, là, il y a vraiment
l'énergie.
Il y a vraiment le poids de la sélection. C'est-à-dire qu'on a renforcé ça. En fait, il y a non seulement ce qu'on a renforcé depuis des générations, donc l'impulsivité, la réactivité à se déclencher très rapidement, tu vois, si c'est par exemple des chiens, des lignées d'intervention, tu vois. Et il y a l'entraînement qu'on va aussi, tu vois, qui
va
s'ajouter à ça, et bien sûr, tu vois.
Ouais.
Si tu prends des chiots...
Mais du coup, dans ce cas-là, la génétique est très forte.
Elle est très forte, mais sur le chien, c'est peut-être là où on parle d'une espèce particulière.
J'ai pas lu l'étude, je sais pas si tu l'as lu.
Je l'ai lu.
D'accord.
Et je l'ai lu, mais ça n'est pas opposé à ce que j'ai là, c'est-à-dire que ce qu'ils veulent dire, c'est qu'en effet, il n'y a pas un tempérament attribué à une race.
Oui.
Ok, je suis d'accord dans l'absolu,
oui.
Mais il y a des tendances comportementales qui... Parce que, justement, c'est, si tu prends les catégories, en tout cas, si tu ne prends pas une race en particulier, mais des catégories, tu vois, les chiens de berger... Bah, ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques que les chiens de chasse, mais pas du tout. Tu vois, il y a des chiens, même des chiens de chasse, qui doivent être extrêmement indépendants de l'humain, têtus. On leur demande de ne pas faire attention à l'humain. Chien de conduite de troupeau, il a intérêt à te regarder tout le temps, pour que tu valides ou non voilà, ce qu'il doit faire. Donc, tu vois, quand j'entends « Ah, mais non, mon chien, il ne répond pas au rappel, etc. » C'est hyper dur, même avec l'éducateur. Bah ouais, attends, tu te bats contre une génétique qui est quand même bien présente. Et après je te dis des arguments dans un sens comme dans l'autre. T'as des individus qui sont pourtant d'une lignée de chasse et ils entendent un coup de feu et c'est le premier à fuir,
oui.
À déguerpir, et il n'aura pas du tout envie de chercher sa piste.
Des golden qui ont peur de l'eau, quoi.
Exactement.
Ça,
enfin,
arrive aussi. Ok. Non, mais c'est hyper intéressant et ça donne envie de creuser, mais pour chaque race en fait. Limite.
Moi, c'est passionnant. Écoute, moi, je l'avais pas fait juste. Bah, pendant mes études, de me renseigner sur l'origine, justement, la domestication d'une part, et la sélection artificielle qui a été réalisée sur ces catégories, en tout cas, de races. Mais c'est passionnant et ça explique tellement de choses. Et je pense que quand on veut bosser sur le comportement, de manière générale, il faut absolument connaître, tu vois, l'histoire, voilà, des races, la cynotechnie. D'une part, c'est hallucinant ce qu'on est capable de moduler le vivant. C'est à la fois terrifiant et passionnant. Et surtout, ça explique tellement de choses, tu vois. C'est ce qu'on enseigne aussi au cours des consultations de comportement aux propriétaires, quoi.
Oui, et puis là, ça me fait penser aussi, selon les races, elles sont issues de différents pays, différents continents, et du coup, l'humain de cette création de race a aussi un mode de vie complètement différent par rapport à nous, Français, Européens.
Complètement. Mais tu vois, c'est... Puis après, il y a l'autre débat, mais qui quand même en lien avec ce dont on parle, c'est-à-dire que, tu sais, les animaux, les chiens qui vivent libres et errants à La Réunion, en Guadeloupe, tu sais.
Oui.
Et là, c'est très à la mode de les adopter en métropole.
Oui.
Parce que c'est vrai que là-bas, ils peuvent se faire percuter par des voitures, ils sont en mauvaise santé, donc c'est difficile d'accepter cette souffrance. Mais d'un autre côté, donc, c'est des animaux qui ont toujours vécu, même s'ils sont chiots, leurs ancêtres ont vécu libres et errants. Et puis, tu leur imposes un changement d'environnement extrêmement brutal. Tu passes, tu vois, d'un chien qui est libre de manger, de se reproduire, d'interagir avec qui il veut, à de l'enfermement, que ce soit dans une maison ou en appart, hein, je veux dire. Tu contrôles ce qu'il va manger, quand il va manger, avec qui il va interagir, s'il peut se reproduire ou non. Et du coup, tu passes vraiment d'un monde de liberté totale à beaucoup de contraintes. Alors, c'est sûr qu'ils vont vivre probablement plus longtemps parce que tu vas leur apporter
médecine.
La médecine. Mais la grande question, et je n'ai pas la réponse, c'est est-ce qu'ils sont mieux? Est-ce qu'il vaut mieux vivre en bonne santé plus longtemps, mais avec un grand nombre de contraintes?
Ouais, avec les valeurs qui sont importantes pour ce chien.
C'est ça. On décide
liberté,
à sa place.
Oui.
Bon, je ne juge pas du tout le boulot que font les associations là-dessus, parce que je comprends ce qui les motive, et c'est très dur d'accepter la souffrance de ces chiens-là. J'en ai moi-même vu, et c'est vraiment dur à vivre. Mais voilà, c'est une décision qu'on prend à leur place en tout cas, et je ne sais pas ce qui est mieux, je ne sais pas.
Et toi, est-ce que tu as un animal? Et si oui, penses-tu le connaître par cœur? Te surprend-il encore parfois dans ses réactions?
Alors oui, j'ai un animal, j'étais mal partie d'ailleurs au départ, parce que c'est au cours de la première semaine où j'assistais aux consultations de comportement à l'époque que je suis tombée sur Pamina, qui est donc un chat.
Qui nous tape sa meilleure sieste juste à côté de nous.
Hyper relax, elle est bercée par le podcast. Très contente qu'on mette en avant le bien-être animal. Et du coup, Pamina, elle était, je l'ai reçue en consultation parce que donc, ses propriétaires n'en voulaient plus parce qu'elle était trop anxieuse, elle ne voulait pas jouer, ils devaient aller la chercher sous les meubles. Enfin bon, bref, je te dresse un tableau assez noir dans cette consultation, c'était le cas. Et du coup, ils se disaient, est-ce que vous pouvez l'euthanasier ? Je t'assure que c'était littéralement ça. Et on dit, non, on n'euthanasie pas un animal qui est en bonne santé. Bon.
Euthanasie de convenance, ça s'appelle, c'est
exactement.
Ça ? Ouais. Donc, il y a des vétérinaires qui peuvent accepter ça ?
Ah, il y a des vétérinaires qui acceptent. Okay.
Même encore sur maintenant. Un chat en bonne santé.
Je pars en vacances, je ne sais pas quoi en faire. Est-ce que vous pouvez l'euthanasier ? Oui.
Il y en a
terrible.
Qui acceptent.
Non, je t'assure.
Ok, oh là là. Okay. Je ne sais pas comment ils se regardent dans un miroir après.
Mais... Je sais, mais après, voilà, c'est horrible ce qui existe encore. Et puis après, il y a du chantage aussi. Les propriétaires qui vont te dire, si tu ne l'euthanasies pas, moi, je le défonce sur,
oui,
sur le parking.
C'est pas
quoi.
Si... Oui, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a plein de choses à prendre en compte. Ouais.
Et du coup, je reçois Pamina en consultation. Et en effet, on ne pouvait même pas l'examiner. Elle était dans un état de panique tel qu'on ne voulait même pas accentuer son stress. Bon, moi, je vois cette petite chatte, je me suis dit, ok, c'est pas grave, je la confierai à mes parents, à la campagne, et comme ça, même si elle veut, elle est en liberté, si elle veut partir, elle partira, mais voilà, je veux plus qu'elle vive avec ce mec-là. Et du coup, on a signé sur place, et elle a dit, moi, j'ai dit, écoutez, moi, je veux bien la récupérer si vous en voulez plus. Donc, ma première consultation de comportement. Donc, Thierry me disait, mais t'es mal barré, quoi.
À ce rythme-là.
Ah, là, parce que tu n'étais pas finalement voir.
T'avais le syndrome de Noé, frère.
C'est vraiment ça. Mais finalement, j'en ai pris qu'une. Hein. Et du coup, je l'ai récupérée. Et c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce qu'elle peut encore me surprendre? Alors, bien sûr que je vis au quotidien avec elle. Donc, je la connais. Oui, je connais. En tout cas, je crois la connaître. Mais. Pamina qui n'approchait personne pendant des années, c'est-à-dire moi oui parce que j'étais au quotidien avec elle, mais toutes les personnes qui venaient à la maison ne l'ont jamais vue, ils se posaient même la question de si j'avais un chat vraiment. Et en fait ça fait elle a 16 ans actuellement, moi je l'ai eu il y a 10 ans, elle avait 5 ans et demi quand je l'ai eu, et ça a mis donc, ça a mis 5-6 ans vraiment avant qu'elle se détende, et maintenant t'as pu le constater, elle est très friendly avec toutes les personnes qui viennent à la maison, elle a un peu plus de mal avec les hommes, mais quand même, et ça c'était inattendu, et tu vois, je ne sais pas vraiment expliquer qu'est-ce qui a changé dans l'environnement qui a fait que tout d'un coup elle se détende, est-ce que c'est juste le temps, est-ce que c'est un événement en particulier, je ne sais pas, je suis très contente qu'elle se détende autant et qu'elle ait autant la forme à 16 ans.
C'est marrant que toi, avec ton métier, éthologue et entourée de comportementalistes, vétérinaires, etc., tu n'arrives pas à l'expliquer. Enfin, je pense que quand c'est son propre cas, on n'est pas très objectif et du coup, on n'a pas la vision globale, holistique, comme tu le disais. C'est marrant. Comment tu te formes en continu, en éthologie ou en psychologie d'ailleurs ?
J'aime beaucoup lire quand même, et pourtant je trouve peu le temps, donc c'est terrible. Je pense comme pas mal de personnes peut-être, hein, mais j'ai une pile de livres à lire. Tu sais, dès qu'il y a un nouveau bouquin qui sort sur l'éthologie, que ce soit le chien, chat ou d'autres espèces, je le prends. J'ai très envie de le lire, mais je n'arrive pas à trouver le temps. Donc par les ouvrages quand même. Par les congrès, tu vois, encore ce matin, là, je participais au colloque sur la vulnérabilité animale. On en fait avec Thierry et Léonore, on en fait beaucoup. Hein, dès qu'on a un colloque sur les animaux, on essaye de le faire. Les formations privées, quelques-unes, quand ça me semble pertinent, tu vois, sur une thématique, un thème, et que j'aime bien les intervenants, par exemple, ou que c'est des intervenants que je ne connais pas, et j'ai envie de me faire un avis, donc je participe. Et puis en plus, ça fait partie, nous, on est un centre de formation, donc c'est dans la démarche Calliope qui nous... j'allais dire contraint, mais c'est pas vraiment une contrainte, à toujours actualiser aussi notre formation. Donc, on doit suivre des conférences ou des formations. Et voilà, donc congrès, ouvrages, webinaires. Tu vois, il y a aussi des MOOC pas mal hein, qui se font sur les animaux, vivre avec les animaux. Là, actuellement, sur FunMOOC, il y en a plusieurs.
C'est quoi un
MOOC ? Un MOOC, c'est une petite formation en ligne, gratuite. Donc, tout le monde peut y accéder. Et puis, soit tu décides de payer, mais c'est vraiment pas grand-chose, pour avoir un certificat à la fin. Donc, tu passes une évaluation. Soit tu décides juste de le suivre librement, tu vois, et juste pour prendre les connaissances sans forcément avoir un certificat d'attestation que tu as suivi la formation. Donc, voilà. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup apprendre des autres sciences. Vraiment, je raffole de ça. Donc, tu vois, je pourrais repartir même sur un doctorat dans un autre domaine tellement j'aime apprendre. Et du coup, j'aime bien la psychologie, mais j'aime beaucoup aussi l'anthropologie, la philosophie. Tout ce qui me permet en fait d'apprendre de nouvelles choses, et c'est vrai que du coup je suis pas que des choses en éthologie. L'interdisciplinarité, je trouve ça extrêmement enrichissant dans l'absolu.
Je suis d'accord. Est-ce que tu as une recommandation, lecture ou vidéo ou autre support pour propriétaires d'animaux qui ne sont pas forcément professionnels ou professionnels ?
Oui, j'ai deux ouvrages, un sur le chien, un sur le chat, en particulier, hein, mais il y en a d'autres. « Comportement et bien-être du chien, une approche interdisciplinaire » et son pendant chat « Comportement et bien-être du chat, une approche interdisciplinaire ». On l'a supervisé, cet ouvrage, avec Thierry, mais on n'est pas les auteurs principaux, parce qu'en fait, il y a une trentaine d'auteurs, tous d'horizons différents, et qui vont parler justement de la thématique du comportement et du bien-être animal, de leur point de vue, donc de vétérinaire ou de juriste, tu vois, ou d'éducateur canin ou de comportementaliste félin. Bref, j'aime beaucoup cette idée encore d'interdisciplinarité. Et dans la même veine, je fais la promo évidemment de notre événement, mais parce que je trouve ça
c'est
vraiment pertinent. C'est que le congrès, en fait, c'est un peu la continuité de ces ouvrages. Le congrès Pet Revolution, c'est un congrès qui est dédié aux animaux de compagnie, qui est ouvert à tous, que vous soyez professionnel, étudiant ou tout simplement passionné d'animaux. C'est centré sur les animaux de compagnie, mais on élargit un petit peu à notre rapport au vivant. C'est un événement qui est co-organisé par Animal University, mais aussi l'Université Paris-Nanterre. Donc cette année en tout cas, il est sous deux formats, c'est-à-dire qu'il y a une demi-journée en présentiel le samedi 1er octobre 2022 à la fac de Nanterre. Et deux jours digitaux, les 3 et 4 décembre 2022. Donc là, c'est 100% à distance. Je vous laisserai regarder le programme, mais donc il y a plus d'une trentaine d'intervenants, là aussi d'horizons différents. Et puis, si vous êtes inscrit à ces deux jours digitaux, vous aurez la possibilité de suivre ensuite en replay pendant 6 mois les conférences. Donc même si vous n'êtes pas disponible ces deux jours-là, vous avez 6 mois pour regarder les conférences en vidéo ou en podcast. Et donc, je vous encourage à le voir parce que même si c'est nous qui l'organisons, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est plein de chercheurs et pas forcément nos intervenants qui font partie des conférenciers. Et je pense que pour des ostéopathes, pour tous ceux qui travaillent dans les métiers en lien avec les animaux, mais aussi les personnes qui vivent auprès d'animaux, c'est très important d'actualiser ces connaissances. Et puis, c'est accessible à tous. Bien sûr qu'on parle de science, mais pas que. On parle d'expérience terrain aussi. Donc je serais ravie de vous y retrouver.
J'essaierai en tout cas. Ou alors le replay pendant 6 mois. Donc là, on n'a pas trop d'excuses. En tout cas, moi, je trouve ça hyper intéressant de faire ça sous forme de congrès, de vidéos qu'on peut regarder ensuite en replay ou en podcast, parce que finalement, moi aussi, là, avant d'interviewer toi et après le docteur Thierry Bedossa, je voulais me procurer vos livres et les lire, mais c'est vrai que ça prend énormément de temps. Et donc, je vais le faire, ils sont sur ma liste, comme on dit, ma PAL, ma pile à lire. Mais les podcasts et les vidéos, ça va beaucoup plus vite, ça permet d'avoir beaucoup plus d'informations plus rapidement. Et donc, c'est un très bon moyen de s'informer toujours au quotidien. Donc, merci, c'est super cool de faire ça sous cette forme-là.
Merci à toi, Mathilde, pour le coup, parce que d'avoir l'occasion de parler de tout ça. Et puis, le podcast, c'est aussi un super moyen de s'informer. Donc, bravo pour cette initiative.
Merci, surtout merci à toi pour cet épisode.
À bientôt.
Salut.
Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je t'en remercie. C'est qu'il t'a sûrement plu, alors dans ce cas, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur les réseaux en nous taguant @animal.university, @sarahjanin et @mathildeostéo. Je vais faire une petite pause estivale pour le podcast. Les prochains épisodes sortiront à la rentrée en septembre 2022 pour la deuxième année de vie de Mordant. En attendant, je vous souhaite un bon été et vous dis à très bientôt.